France Culture.
Ce n'est pas un discours, encore moins un serment, une narration, une description. Le boniment est simplement la fable, destinée à donner à chaque tour d'escamotage l'apparence de la vérité. Robert Houdin. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui vous enseignera ce soir l'art vocal d'attirer l'attention du badaud, la magie rhétorique qui ouvre les bourses du chaland, la manière de capter l'attention du passant. Mauvais genre qui, en clôture de sa 28e saison, se consacrera, grâce à notre invité Agnès Curel, à l'art séculaire du boniment et à la fascinante confrérie des bonimenteurs, ceux qui touchent juste et parlent haut. Laissez-vous tenter un monde que nous évoquerons en compagnie de Patachetouille, bien connu de nos services qui, de Goujon Folie à Madame Osbachung de Cabaret avant Cabaret Canaille, c'est l'art de jouer fin et de brûler les planches. Béni soit qui boniment. C'est ce soir dans France Culture Mauvais Genre, chronique en second temps d'émission, signée Esther Teillard et Fausto Fazulo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier Mauvais Genre de la saison, et de la saison 28. S'approche à grands pas la saison 30, et là nous fêterons dignement l'anniversaire. En tout cas, pour terminer la 28e saison, eh bien avec Céline Duchesnay, bonsoir.
Bonsoir François.
On a eu, avec Laurent Polleret bien évidemment, l'idée de consacrer, comme on avait parlé des spectacles de curiosité il y a quelques mois, eh bien d'y faire retour à ces pratiques spectaculaires et imaginaires, et d'inviter Agnès Curel. Bonsoir Agnès Curel.
Bonsoir.
Vous êtes universitaire et vous avez consacré, c'est votre thèse là que j'ai en main.
Eh oui, une partie de ma thèse,
une partie de la thèse.
Essayer de condenser.
Bon. Qui est donc paru aux presses universitaires de Lyon et qui s'appelle Le Grand Théâtre du Bonimenteur 1845-1914 et qui est entièrement consacré à cet art difficile à saisir, oublié, imperceptible et en même temps omniprésent dans tout ce qui est histoire de la rue, histoire des spectacles populaires, eh bien, aller au-devant des bonimenteurs, on en a connu dans les années, encore les années 60-70, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup aujourd'hui, on va voir ça. Mais en tout cas, vous avez fait l'histoire du boniment et de ceux qui le pratiquent. Bonsoir Patachetouille.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Patachetouille?
Qu'est-ce qu'on peut dire de Patachetouille? On pourrait dire que c'est par exemple la fille d'une perruque et du fantôme de l'opéra née un soir d'orage. Ça pourrait être une bonne définition
bien,
de Patachetouille. Ou alors on pourrait dire aussi que c'est la personne qui est capable de rendre sexy l'écologie avec sa coiffe de lentilles germées sur le crâne.
Là,
ça pourrait être deux définitions.
Très sexy.
Voilà, bah, écoutez, on va en savoir un peu plus. Et puis on va vous écouter parler aussi des boniments, des monumentaires, puisque c'est aussi une partie, on peut le dire.
Oui, ça fait partie aussi. Oui,
de l'art qui est le vôtre. Bonsoir Esther Teillard.
Bonsoir, mauvais genre.
Qu'est-ce que vous allez nous parler de quoi ce soir en chronique?
Je vais vous parler de sirènes, de créatures apocalyptiques, de l'exposition d'une artiste qui s'appelle Marcella Barcelo.
Très bien, bah, tout ce qu'on aime. Et puis la carnatitude continue de prospérer.
Bah, la chaleur et la carne sont de pair, donc voilà. Tout va bien de ce côté-là.
Parfait. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Alors, on parlait de carne avec vous.
Il y a pas mal
guts,
de carne.
Les
ouais.
Guts.
Ouais, on va
les guts,
trifouiller dans les entrailles des anges avec
voilà.
Les guts.
Trifouiller dans les entrailles des anges. Ah, ben bah voilà quelque chose de digne. En attendant, en préparant cette émission, je discutais avec Laurent Polleret et on en est venu à se dire, bah, ma foi, il a bien existé encore dans ce beau pays qu'est la France, un vieux bonimenteur, peut-être un peu ringard, certes, oui. Avec un vocabulaire peut-être désuet, mais avec quand même une certaine énergie, puis quand même quelqu'un qui y croit. Alors il a dit, non, on va pas avoir le temps de le trouver, il faut partir en expédition. Il m'a dit, non, il a pris sur son dos son sac célèbre, et puis il est parti pour trouver ce vieux bonimenteur, et il l'a trouvé. Mesdames, messieurs, venez nombreux maintenant sur le stand Radio France pour l'enregistrement de Mauvais Genre. Mauvais Genre, l'émission que vous n'entendrez pas ailleurs. Avec des invités que vous n'entendrez pas ailleurs. Des textes que vous n'entendrez pas ailleurs. Des musiques que vous n'entendrez jamais ailleurs. Dépêchez-vous de venir, il reste encore quelques places. L'événement du Salon du Livre, c'est maintenant sur le stand Radio France. L'enregistrement de l'émission Mauvais Genre. Le reste n'a aucun intérêt, mais aucun. Alors venez, asseyez-vous, écoutez. Venez écouter Mauvais Genre. Alors au lieu de faire la queue pour des auteurs qu'on aura oubliés dans 6 mois, venez plutôt écouter Mauvais Genre avec des livres qu'on n'oubliera jamais. Le monde est plein de gens qui n'ont pas pu venir écouter cette émission. Alors venez, vous qui pouvez. Voilà, bah il a fini par trouver, Céline Dussulet.
Il me fait penser à quelqu'un.
Bah oui, je ne sais absolument pas de qui il s'agit.
C'était un enregistrement clandestin, je crois.
Oui, oui, ça a été fait sans en avoir l'air, mais c'est toujours la vérité qui part. Alice Curel, donc, analyse sociolinguistique de ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ça participe de l'esprit du boniment, le style, les...
Le
dites-nous.
Style est parfaitement suivi. Ah il bon. Ne manque que le « on ne paye qu'en sortant
ah oui.
pour être le boniment forain parfait ». Il faudrait peut-être un petit peu plus de gouaille dans la voix, mais on
ah
sent
oui.
que c'est aussi...
Bon, bah, écoutez,
jeunesse.
Je vais travailler tout ça suivant vos conseils. Et l'an prochain, au Salon du Livre, amis auditrices, amis auditeurs, eh bien, on se retrouvera pour une deuxième édition de cette présentation dit boniment. Alors, Céline, présentation de notre invité.
Alors,
du propos.
Notre invité, bah, je trouve déjà que le titre de l'ouvrage de notre invité serait une parfaite définition, finalement, pour Mauvais Genre. D'ailleurs, le grand théâtre du bonimenteur, puisque les auditeurs et les auditrices auront bien évidemment reconnu votre voix dans ce boniment d'ouverture. Agnès Curel, évidemment, donc on le sait, a fait une thèse sur le sujet de bonimenteur et ses dada, c'est vraiment l'oralité, le son dans les rues, les exhibitions aussi de phénomènes de foire, les cabarets, et elle va peut-être pouvoir nous raconter qu'elle est venue justement au bonimenteur grâce au monstre.
Ah.
Absolument, quand j'ai commencé mes recherches, quand j'étais toute jeune, je m'intéressais aux exhibitions de phénomènes de foire, donc les freaks, les femmes à barbe, les géants, les veaux à deux têtes. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte premièrement que souvent, ces phénomènes étaient artificiels, donc créés avec des costumes, des effets d'illusion. Alors pas tous, mais beaucoup. Et puis surtout, il y avait un personnage qui était vraiment très important à côté de lui. C'était le bonimenteur qui le présentait et créait toute une légende autour de ce phénomène. Et là, je me suis dit, ah mais on tient quelque chose parce que ce personnage... on l'a oublié parce que évidemment une femme à barbe, on retient l'image, mais en fait il y a un bonimenteur à côté et c'est l'histoire aussi qu'il raconte, c'est les mots, c'est la faconde qui font que il y a spectacle.
Mais autant la femme à barbe ou enfin l'univers de Todd Browning par exemple, il y a des photos, il y a des dessins sans fin, c'est extraordinairement iconographié. Autant le bonimenteur, c'est volatile, c'est passager. Normalement, rien n'est là pour que ça subsiste.
Eh oui, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'a si longtemps un peu oublié, hein. Même si on peut toujours finalement entendre, ça nous dit quelque chose quand même la parole du bonimenteur quand on y réfléchit bien. Mais c'est vrai qu'il est assez discret visuellement, et il est là oralement, on l'entend, on n'entend que lui même presque, mais visuellement on le voit très peu. Il a fallu que j'aille dans les archives, que je regarde des cartes postales et je me rends compte tout d'un coup que sur ces cartes postales, on voit devant les baraques foraines, on voit quelqu'un dans un bel habit complet, noir, et ça c'est un bonimenteur en fait.
Céline.
Je me demandais quelle pouvait être la relation de Patachetouille au bonimenteur. Est-ce que ça fait partie de votre univers aussi ?
Oui, un côté la fanfaronnade, bien mentir, faire croire en la vérité à travers le travestissement, par exemple. Oui, ça c'est bien mentir, c'est, oui, ça joue.
Et puis je crois d'ailleurs que vous avez croisé des bonimenteurs dans votre enfance.
Oh, vous êtes bien renseignée, chère Céline.
Bah oui, c'est de bonnes sources généralement.
Oui. Ma mère avait une mercerie sur le marché et quand on avait des marchands ambulants, des bonimenteurs en face de nous, ça pouvait être vraiment dur d'entendre toute la matinée l'art de vendre des casseroles, d'arnaquer les gens avec des barons. Enfin, c'était tout un système, des gens avec un micro qui nous pourrissait les oreilles toute la matinée, quoi.
Et Agnès Curel aussi, je crois que vous aussi, vous avez votre histoire de bonimenteur.
Et oui, bah, je pense qu'en fait, si j'en suis venue au bonimenteur et si je me suis intéressée à cette figure, c'est aussi parce que quand j'étais petite, j'allais avec mes grands-parents au marché de Matignon, en Bretagne, et il y avait une vendeuse de draps exceptionnelle avec une voix complètement éraillée, un mari complètement fantoche à côté, qu'elle arrêtait pas d'humilier, comme à la grande époque de la farce, exactement. Ouais. Et on pouvait rester un quart d'heure à écouter ses histoires. Et maintenant, elle n'est plus là, je crois, mais elle faisait toujours spectacle. C'était exceptionnel.
Alors, c'est une affaire de mots, Agnès Curel. Boniment, bonimenté, bonimenteur. Alors, instinctivement, on se dit, ah bah oui, c'est le mentir vrai, quoi. Mmh. C'est le bien mentir. Mais en définitive, ça vient de bonir.
Exactement. Donc, c'est un terme argotique et qui veut dire raconter, dire de bonnes histoires.
Donc c'est le conteur, d'abord.
Voilà, c'est le conteur, exactement. Maintenant, bien sûr, c'est normal d'entendre le bon menteur. Mais au 19e siècle, d'ailleurs, on disait plutôt bonisseur. Donc, l'idée de mensonge était beaucoup moins présente quand on allait dans les fêtes foraines et qu'on entendait le bonisseur. Le terme de bonimenteur est arrivé après.
Alors avec votre livre, j'ai découvert le mot bonisseur. Jusqu'à présent, pour moi, bonisseur, c'était OSS 117, Hubert Bonisseur de la Batte. On s'instruit au fur et à mesure. Alors j'ai le glossaire sous les yeux, vous allez un peu nous éclairer. Céline, on a le glossaire à l'œil. Un aboyeur, qu'est-ce que c'est qu'un aboyeur?
Un aboyeur, c'est l'ancêtre du bonisseur.
Avant le bonisseur, il y eut le bonimenteur, et avant le bonimenteur, il y eut l'aboyeur.
Exactement, et il fait exactement ce que dit le mot, c'est-à-dire qu'il aboie, il parle extrêmement fort. Les discours sont sans doute peu élaborés, mais il s'agit surtout de se faire entendre par la voix. Et il faut savoir qu'en anglais, bonimenteur, c'est barker. Donc c'est là aussi.
Oui, barque, c'est aboyer.
Ouais, barque, c'est aboyer. Donc il y a vraiment cette même idée dans plusieurs pays.
Et le conférencier.
Alors le conférencier.
Ça, c'est pas mal, ça, le conférencier.
C'est plutôt du côté du cinéma, puisqu'on avait aussi des bonimenteurs au début du cinématographe. Les spectacles n'étaient pas muets, en fait. Il y avait toujours quelqu'un qui commentait les images. Et le conférencier...
Donc il y avait quelqu'un qui jouait du piano et qui commentait les images.
Alors il n'y avait pas forcément de piano.
Oui, mais quand
c'est
pas de
amusant
piano,
que dans l'imaginaire collectif, on ait plus gardé le piano que ce pauvre bonimenteur. Mais en revanche, le conférencier, c'est le versant sérieux. Quand le cinéma a voulu un peu se débarrasser de ces bonimenteurs qui, des fois, détournaient l'image à leur avantage. Alors que le conférencier est là pour transmettre un savoir à partir de l'image. Donc c'est plus sérieux et c'est un gage de qualité par rapport au cinéma forain qui est un petit peu trop...
Ouais.
Olé, olé.
Alors Céline, il y a la banque.
Ah, c'est moi qui dois donner ce soit Agnès Curel.
Moi aussi, j'écoute et je suis en plein apprentissage.
La banque, alors c'est quoi? Parce que, effectivement.
C'est pas la Banque de France.
Non, c'est pas la banque avec un B majuscule, c'est la banque. On appelle le monde des forains, les petites et grandes entreprises, ça s'appelait des petites et grandes banques.
Exactement. Et c'est le même mot que dans saltimbanque. C'est celui qui saute.
Donc c'est le banc.
Exactement.
D'accord. Alors sinon, il y a un dernier mot sur lequel je voudrais vous entendre, le paillasse, parce que c'est le titre d'un opéra célèbre. Nous avons là un chanteur lyrique.
Absolument.
Avéré du fait. Mais le paillasse, c'est quoi?
Le paillasse, alors peut-être que mes collègues circassiens me trouveraient un peu trop schématique, mais on pourrait dire d'une certaine manière que c'est l'ancêtre du clown, c'est-à-dire qu'il fait partie de ce personnel forain qui peut être aux côtés du bonisseur et qui joue un peu plus facilement le gros benet, qui se prend des coups de pied dans le derrière et qui fait des bonnes blagues. Voilà.
Voilà, parce que Céline, on vient d'énumérer des noms qui sont des fonctions, mais il y a mille et une manières de bonimenter. Il y a ceux qui veulent faire rentrer le passant dans ce qu'on appelle l'entresort, je dis pas de bêtises, c'est-à-dire la baraque. Il y a celui aussi dans le cabaret, il y a celui qui est là pour vendre des produits, il y a tout un des fonctions qui sont quand même différenciées.
Mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement, quand on lit le livre d'Agnès Curel, on passe d'un univers à l'autre, des univers qui sont à chaque fois très chargés en termes de son. Et ce qui est vraiment très agréable aussi, c'est que grâce à ce livre, on réussit à imaginer à quel point tous ces univers pouvaient être beaucoup plus sonores que notre vie quotidienne actuelle. Quand on a les descriptions, par exemple, de foires ou de fêtes foraines, alors je pense aux fêtes foraines avant la mécanisation, avant toutes ces grosses machines, et qu'on imagine que c'était juste à la force des organes vocaux d'un bonimenteur ou d'une bonimenteuse. On imagine aussi le bruit de la cloche, les fanfares qui sont très présentes, et tout un univers qui peut-être que pour nous paraîtrait extrêmement bruyant, agressif, mais qui pour les gens de l'époque était tout à fait quotidien ou en tout cas normal. On imagine que au fil du siècle, en fait, notre tolérance au son aussi a quand même beaucoup évolué en fonction de nos dates de naissance, tout simplement, de notre génération.
Agnès Curel.
Alors, c'était normal pour ceux qui aimaient les fêtes foraines. Mais pour ceux qui aimaient moins, et disons-le en fait pour plutôt les bourgeois, ces sons, dès le 19e siècle, sont décriés. Il y a même une ligue anti-foraine qui se constitue pour attaquer les forains et dire que ça fait trop de bruit, qu'ils sont sales, enfin bon, que rien ne va. Et les fêtes foraines, il y a une sorte de pression législative pour qu'elles soient éloignées des centres-villes dès le 19e. Et ça continue maintenant. Moi, je suis lyonnaise et à la Vogue des Marrons. Cette année, c'était assez inédit comme expérience parce qu'il y avait une demande pour faire beaucoup moins de bruit parce que les riverains se plaignent. Alors, bien sûr, on peut comprendre, mais je suis entrée dans cette fête foraine et j'ai eu l'impression d'être comme dans du coton, c'est-à-dire qu'on n'entendait plus grand-chose. Je suis allée demander aux forains ce qui se passait et ils m'ont dit qu'effectivement, ils avaient des demandes pour faire le moins de bruit possible.
Mais alors, les bonimenteurs sont, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Il y a celui qui décrit, qui embellit, mais qui reste dans l'objectivité pour attirer le chaland. Et par contre, il y a le mauvais bonimenteur qui trahit, qui invente un contenu, qui invente un spectacle, qui ment.
Mais ça, c'est le bon bonimenteur.
Ah, c'est le bon.
Je pense que personne ou peu de monde n'est vraiment dupe dans ces fêtes foraines. C'est-à-dire que on aime aussi on joue à se faire peur. Quand on va dans une maison hantée, on sait qu'elle n'est pas vraiment hantée et on a quand même peur. Et on a... Donc il y a quand même
on vous en trouvera des maisons hantées comme les bonimenteurs.
Peut-être aujourd'hui ici, mais non. Mais c'est-à-dire que donc on sait que de toute façon, on nous raconte des choses qui sont enjolivé, qu'on va toujours peut-être être même un petit peu déçu en entrant à l'intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge quand même consenti. C'est comme dans toute fiction ou comme dans tout jeu. Le mauvais bonimenteur, c'est plutôt celui qui ne va pas se faire entendre, qui ne va pas réussir à entrepper, donc à rassembler autour de lui les spectateurs, qui va pas tenir jusqu'au bout et justement, qui donne pas envie d'entrer.
Oui, c'est ça.
Quelles seraient les qualités justement alors d'un bon bonimenteur, peut-être même en termes de rythme ou de comment est-ce que la voix doit être placée, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a même une école de bonimenteur, comment est-ce qu'on devient un bonimenteur?
Moi, j'ai pas trouvé de trace d'école de bonimenteur. Je pense que c'est vraiment typiquement empirique. On apprend en écoutant, puis en essayant, et puis on progresse. De la même manière, on n'a pas vraiment de manuel pour nous dire ce qui est bien ou pas bien. En revanche, quand on lit les chroniques dans les journaux, les comptes rendus, on voit que souvent, ce qu'on apprécie, enfin, en tout cas, ce qui marche pour un bonimenteur, c'est d'avoir la voix éraillée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, très grave. Avoir un instrument très puissant. bien se faire entendre, être capable de captiver son public. Et quand on lit les bons boniments, il y a quand même un vrai art, je vais dire le mot, mais littéraire, c'est-à-dire écrire stylistiquement son discours. Il y a une construction, il y a une manière de se mettre en scène aussi dans son discours, de jouer avec les sonorités. Et tout ça, ça contribue au bon boniment.
Well, here are a few simple admonitions for young and old. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money, much more. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. His word isn't worth shit, not to the good Lord telling him how to fuck you on the deal. Words of advice for young people. After having been exposed to someone's presence, you feel as if you'd lost a quart of plasma. Avoid that presence. You need it like you need pernicious anemia. Don't like to hear the word vampire around here. Trying to improve our public image.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Allez, c'est parti, on rit, on s'amuse, on rigole, gueule, gueule. Bienvenue dans Mauvais Genre.
Eh ben voilà, on va trouver un deuxième bonimenteur. Tout le monde va essayer ce soir.
Oh là, oh là.
Alors, c'est autre élément important dans votre travail, Agnès Curel, question des dates. C'est un travail d'historienne. 1845, donc monarchie de juillet, si j'ai bien compris. 1914, fin de la Belle Époque. Pourquoi ces deux dates entre 1845 et 1914? Est-ce qu'il y a une naissance et une fin? Est-ce que c'est une espèce d'ère complète du boniment?
Alors, je pense qu'il y a vraiment une phase très importante dans l'histoire du boniment. Je suis partie de 1845 parce que c'est le moment où on voit vraiment apparaître le terme dans la langue, dans les écrits. On a quelques occurrences auparavant, mais il y a quelque chose à ce moment-là qui est un petit peu plus fort. Moi, je suis partie du principe que bon, je n'allais pas faire l'histoire du boniment de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ou bien ma directrice de thèse aurait, il serait encore, mais
ouais, qu'à Athènes, j'imagine bien le boniment.
Eh oui, finalement.
Le bonimenteur. Et à Rome, n'en parlons pas.
Mais en revanche, voilà, il y avait l'idée que si on cherche autant à nommer cette activité, c'est qu'elle devient importante culturellement, qu'on la reconnaît. Et jusqu'en 1914, on a comme ça cette diversité des pratiques dans les fêtes foraines, dans les cabarets, dans les rues, où il y a vraiment une sorte de moment boniment et où les écrivains ou les journalistes écrivent sur cette activité et le pensent en termes de âge d'or et puis ensuite perte de vitesse. Donc voilà, j'ai essayé de suivre vraiment cette phase-là de l'histoire du boniment telle qu'on a commencé à l'écrire à la fin du 19e siècle.
Oui, parce que vous citez quand même, Céline, des citations d'auteurs qui repèrent comme ça des silhouettes, alors soit euphorisantes, soit désespérantes. Banville, plutôt bon. Il y a le vieux saltimbanque de Baudelaire, dans le Spleen de Paris que vous citez, qui est vraiment effrayant. Il y a Vallès, en on sent qu'il voit dans le bonimenteur une figure pré-révolutionnaire, enfin figure populaire comme ça, tout en mobilisé d'une certaine manière, c'est vrai.
Il y a Hector Malot aussi, Malot. Avec son famille et Vitalis, qui est à la fois saltimbanque et bonimenteur, qui rappelle aussi de vos souvenirs. Et puis alors aussi un des grands personnages bonimenteurs qu'on croise dans votre livre, Agnès Curel, et ça va intéresser Patachetouille, c'est Rodolphe Salis, évidemment, donc le créateur du premier cabaret artistique, le Chat Noir, 1881. Qu'est-ce qui fait que cet homme se mette autant à utiliser les boniments? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une de ses caractéristiques premières. Aussi bien pour rappeler les gens, que pour interpeller le public, que pour commenter après, quand il y aura le théâtre d'ombre, pour commenter là aussi, alors pas les images, mais les plaques de zinc.
Il essaye de faire spectacle permanent. C'est-à-dire que pour lui, il y a quelque chose de, dès qu'on passe la porte du cabaret, on est dans le spectacle, tout fait spectacle. Certains d'ailleurs vont lui reprocher, ils vont dire oui, il transforme les poètes qui sont dans le cabaret de la première époque, il les transforme presque en phénomène de foire eux aussi, il industrialise la poésie, l'art, c'est un commerçant et il essaye de faire spectacle de tout. Alors il y a quelque chose comme ça pour essayer d'attirer tout le monde et de faire événement pendant toute la soirée.
Et je crois, Patachetouille, que c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans le cabaret aujourd'hui, que ce soit le rôle du maître de cérémonie, oui, ou de la maîtresse de cérémonie, cette idée de cette parole qui jaillit et qui attrape les gens.
Absolument,
au vol.
Qui est là pour promotionner, pour présenter, même déprésenter. Des fois même ça peut être un peu une manie, des fois il y a juste des jingles. Et puis en effet, au cabaret, tout fait spectacle. Des fois même, moi maintenant par exemple au cabaret Barbichette, je fais des numéros que j'appelle d'art dégénéré, qui s'inscrivent dans une dynamique non productiviste. C'est qu'en fait c'est le fait de performer qui fait cabaret, on va pas faire un nouveau numéro, voilà, on invente au présent.
Oui, mais la grande différence c'est que le bonimenteur il est à l'extérieur... et son travail, c'est de faire rentrer celui qui est à l'extérieur à l'intérieur. Alors qu'au cabaret, le meneur de revue, il est à l'intérieur et il doit animer quelque chose qui est déjà acquis d'une certaine façon. Mais il y a quand même à l'extérieur le...
Il y a les deux, je crois, Agnès Curel, dans le livre. On voit qu'on fait du boniment aussi bien à l'extérieur pour attirer que à l'intérieur pour raconter.
Dans les baraques de foire, on peut effectivement avoir des bonisseurs à l'intérieur. C'est pas dans toutes les baraques, mais ils ont aussi un rôle à l'intérieur. Mais effectivement, une fois qu'on passe du côté du cabaret, on est vraiment dans un boniment qui est à l'intérieur et qui anime tout le spectacle et qui se fait le lien du début jusqu'à la fin.
Et puis au cabaret, il y a un côté aussi entremetteur, c'est mondain aussi. Les personnages et le public se mélangent, s'entremêlent, etc. Donc le maître de cérémonie anime un peu tout ça aussi.
Alors avec Agnès Curel, on a, si j'ose dire, la tradition lyonnaise. Esther Teilhard à Marseille, ça vous est souvenir de bonimenteurs? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des bonimenteurs ou des figures qui s'en rapprocheraient?
Bon, les poissonnières du port, elles ont quelque chose de ça. Qui sont des énormes femmes qui gueulent, qui attrapent le passant et qui l'obligent à manger de la sardine, qu'il déteste ça ou pas. Donc oui, je pense que c'est assez fort à Marseille.
Les cagoles aussi peuvent être bonimenteuses à leur manière. Voilà.
Entre elles, ou en tout cas quand elles se bastonnent, elles ont de ça. Après, elles sont plus silencieuses, les cagoles, quand même. Cagoles et poissonnières ne sont pas de la même espèce, attention.
Fausto Fasulo, vous qui êtes fréquemment au Japon ou en Corée, vous avez des souvenirs de... Il y a des bonimenteurs asiatiques?
Bah, au Japon, il y avait ce qu'on appelait les benchi, hein, qui commentaient effectivement les films muets, qui lisaient les intertitres, et qui étaient un petit peu, effectivement, les bonimenteurs de l'époque. Mais dans tous les pays du monde où il y a de toute façon des attractions foraines et des marchés, on trouve des bonimenteurs. Après, il y a effectivement quelques petites spécificités culturelles, évidemment.
Yeah. Messieurs, je suis Mangin, le marchand de crayons. Il faut entendre comme cette phrase est jetée triomphalement en forme de preuve sans réplique. Comme elle est scandée avec adresse, accentuée d'un ton significatif et qu'elle pose superbe après ce grand nom de Mangin. Ô vieillard de peindre la parole et de parler aux yeux, que tu es froid et impuissant, quoi qu'en ait dit Brébeuf. Messieurs, chacun a son dada qu'il caresse. L'un rêve la croix d'honneur, l'autre court après la fortune. Un troisième a l'ambition de porter des galons dorés sur toutes les coutures profondes et amères ironies. Moi, ce qui m'occupe, ce qui prend ma vie entière, mon dada, si vous voulez, ce sont mes crayons. Mon rêve et mon ambition, c'est de faire connaître mes crayons à tout le monde et de les mettre entre les mains de tous. Ma gloriole, c'est de vous vendre des crayons meilleurs que tous ceux qu'on vous a vendus jusqu'à ce jour. Si vous en doutez, je ne demande pas mieux que d'en venir à l'épreuve. Je ne demande pas mieux que de descendre immédiatement dans la lice. Vous n'êtes pas probablement sans avoir sur vous un de vos crayons ordinaires. Eh bien, monsieur, voyons, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas? Et il faut que je sois bien sûr de la victoire pour parler avec tant d'assurance. Alors là, Céline Duchesnay, c'est Mangin. Mangin, c'est le Paganini du boniment.
Vendeur de crayons rue du Faubourg Saint-Martin, je crois. Ah. Et donc, en
armure.
Oui, on a entendu un petit morceau de son boniment, mais il faut savoir aussi qu'il portait un costume et qu'il y avait vraiment une mise en scène de soi. C'était un personnage.
Exactement. Ce que racontent les articles qui retranscrivent son boniment, essayent de faire passer comme ça la performance de Mangin. C'est qu'il arrive sur une sorte de char et il a un costume avec une sorte de tunique, une sorte de cuirasse et puis un casque avec une plume. Et il pose sur son char un portrait de lui-même pour dire à quel point il joue sur effectivement sa personne pour vendre ses crayons. Il y a toute une mise en scène.
Oui, parce que c'est un monde de stars, c'est un monde de vedettes. C'est comme les chanteurs d'opéra ou les acteurs du boulevard, boulevard du crime ou du français. On a gardé quand même au fil des décennies, entre les deux dates que vous nous donnez, 1845-1914, le Salis, c'est déjà la fin. Enfin, c'est quand même le moment où le boniment devient un peu marketing, un peu comme au second degré d'une certaine façon. Mais avant, il y a eu toute une série de figures comme ça qui n'existaient que par leur show quotidien dans les rues.
Oui, absolument. Mangin en fait partie. Dans les fêtes foraines, on connaît le pitre Clame, qui est en fait un bonisseur. Madame Constance, une des seules femmes bonisseuses que j'ai pu rencontrer, déguisée, elle, en marquise. Elle est connue de tous et toutes. Elle gagne très bien sa vie. Et c'est une personnalité de la fête foraine.
Alors, celui que j'aime bien aussi, c'est Riffolard. Alors lui, c'est vers 1839. Et alors, il a une liste de spécialités où il est capable de faire du boniment sur, par exemple, le plat sur lequel a été mis la tête de Saint-Jean-Baptiste. Alors après, il va faire un boniment sur la culotte de Dagobert, un autre sur la première chemise d'Ève après la feuille de vigne. Je pense que lui, j'aurais bien aimé le rencontrer, ou l'écouter du moins.
Oui, bah, il y a beaucoup comme ça de bonisseurs. Quand on voit un peu leur spécialité, on se dit mais on aimerait les entendre et on aimerait les voir capables d'improviser sur tout et n'importe quoi selon ce qu'on leur présente devant eux.
Alors, c'est un art, vous travaillez sur des témoignages, pas sur des enregistrements, vous travaillez sur une matière, c'est comme Arlette Farge quand elle travaille sur la voix au XVIIIe siècle. Bon, ça ne peut être que des témoignages seconds, des en creux d'une certaine façon. Il y a eu comme on a recopié un peu certains boniments, est-ce que ça peut se pratiquer comme un texte de théâtre?
Absolument, bah, celui que vous avez très bien lu.
Merci. J'ai peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être une deuxième vocation qui va naître.
Celui de Mangin, il est retranscrit dans la presse et puis on y revient, c'est-à-dire que on peut le retrouver. Enfin, moi, je l'ai retrouvé dans plusieurs journaux. Ça se passe un peu comme ça de décennie en décennie. On retrouve des bouts de boniments à chaque fois qu'on chronique les spectacles forains. Et puis on se met aussi à écrire de faux boniments, des sortes de monologues, parce que la fin du 19e, c'est aussi la grande tendance des monologues, c'est les monologues fin de siècle, dont certains qui étaient donnés au Chat Noir. Et on va écrire des monologues de boniments, donc on peut même retrouver à la BNF des boniments inventés, mais qui permettent d'être joués, même à l'heure actuelle.
Alors, moi, j'ai sous les yeux un des boniments que j'aime beaucoup, qui est le chacal de la Terre de Feu, que je peux vous lire, si vous voulez.
Lisez-nous le chacal de la Terre de Feu, quand même.
Entrez, messieurs, entrez, vous verrez dans l'intérieur le fameux chacal de la Terre de Feu, le même qui pénètre le soir dans les cimetières, déterre les morts et en fait sa nourriture ordinaire. C'est le seul qui voyage en France et c'est l'un des plus beaux qu'on ait jamais vu. Ce chacal sauvage a été dompté par ma fille qui l'a rencontré dans les déserts et depuis, ils sont restés amis. Je le vois là, le chacal.
Agnès Curel.
Oui, ce qu'on entend, c'est que il y a vraiment cette volonté d'inventer à la fois une histoire, une sorte de profondeur historique, géographique pour chaque phénomène ou spectacle qui va être présenté. Mais il y a toujours aussi quelque chose de la proximité presque absurde. C'est-à-dire que c'est là où vous voyez, je trouve que personne n'est dupe parce que il y a toujours un moment de complicité avec le public. Oui, ce chacal, bien sûr, il est ami avec ma fille et c'est pour ça qu'il est ici. C'est-à-dire que, à la fois, il y a le plaisir de l'imaginaire, mais on va aussi utiliser des ficelles qui sont suffisamment visibles pour faire rire.
Moi, je trouve que ça fait très cabaret. J'imagine tout à fait bien Patachetouille nous présenter le chacal de la Terre de Feu, non? C'est vrai. Avec un costume, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Ah là là, des poils dans les oreilles, bien évidemment. Il y a ce plaisir de tricher à vue, de se montrer en train de tricher.
De se déguiser aussi à vue, de se transformer à vue aussi, ce que le cabaret peut faire.
Ça me fait penser un petit peu à Jean Cocteau qui disait « je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Et c'est cette espèce de tiraillement, l'élastique entre les deux, voir comment, à quel point de tension il est, qui est vachement intéressant, je trouve, pour le public.
Le Grand Théâtre du Bonimenteur d'Agnès Curel, un livre publié aux Presses universitaires de Lyon. Céline.
Eh bien, je me retourne à nouveau vers Patachetouille. Patachetouille qui est donc notre deuxième invité. Peut-être une première question, Patachetouille. Est-ce que c'est le nom que vous ont donné vos parents à la naissance?
Non, pas du tout. C'est un nom que j'ai trouvé en cherchant. Avant, je m'appelais le Goujon Folichon, qui était le nom du bordel que tenait mon arrière-grand-mère. Et puis, j'ai voulu traverser le genre au travail aussi, artistiquement, puis dans ma sensibilité finalement. Et je suis devenu Patachetouille, en hommage à Patachou, qui était une femme patronne, qui tenait un cabaret, qui était émancipatrice aussi, qui a fait débuter des jeunes, comme Brassens ou Brel. Et puis donc en hommage à Patachou, puis un petit peu de vécu personnel, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire pour moi, c'était le moment de révéler ma séropositivité, et de le dire, de pas le cacher. C'était il y a à peu près 10 ans, et ça faisait déjà 15 ans que je le taisais en tant que chanteur lyrique. Enfin, du coup, c'était un secret. Et voilà, donc c'était l'occasion de vivre ça pleinement, comme un geste psychomagique.
Donc ça, c'est plutôt le côté ch'touille.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Oui.
Toujours mon côté un peu maîtresse d'école à vouloir
non,
tout
non,
expliquer.
Non, mais hein, non, il faut être précis.
Pour les jeunes générations. C'est ça. Ou alors sinon, je me serais appelé Patachivé.
Alors, Patachetouille, vous êtes donc, nous, on vous connaît beaucoup à travers le cabaret, mais on vous a déjà vu sur des scènes d'opéra aussi, oui. Il y a quand même quelques années. Et puis alors, vous avez aussi une nouvelle casquette qui nous intéresse absolument, qui est cette casquette d'enseignant, parce que vous êtes aussi professeur à la Sorbonne.
Alors, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on enseigne quand on s'appelle Patachetouille et qu'on est professeur à la Sorbonne?
Ah là 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 là, je me demande vraiment ce que je leur enseigne. Je leur dis que je suis là pour les émanciper, justement, pour leur faire trouver une distance par rapport à là d'où ils viennent, en fait. Et je leur dis aussi que le cabaret est prétexte pour activer un processus créatif rapide qui aura l'occasion de s'exprimer entre deux autres numéros. Voilà, j'en dis peut-être vous avez un Wagner en vous, mais là vous avez 4 minutes et c'est parti. Allez, on joue maintenant, la fin du monde c'est dans 3 jours.
Avec cette idée qu'il faut aider presque ses étudiants à accoucher d'un personnage.
Alors accoucher c'est un bien grand mot, mais... oui, le personnage, je me rends compte que le personnage n'arrive pas tout de suite. Que le personnage n'arrive pas tout de suite, surtout que ils sont quand même très jeunes, eux-mêmes ne savent pas trop encore qui ils sont, ni même s'ils se destinent à la scène. Donc je trouve que du coup, vraiment l'idée c'est de créer un numéro. Et qu'on peut faire un numéro avec tout, y compris avec ce qu'on ne sait pas faire. C'est peut-être même là que c'est plus intéressant. Parce que souvent je dis au cabaret, on n'est pas là pour montrer ce qu'on sait faire, mais pour le mettre au service d'une poésie, d'une pensée... Et puis là, j'enseigne donc à l'université. Donc l'université, c'est bien particulier. C'est-à-dire, c'est un lieu où on suit l'enseignement parce qu'on s'y est inscrit. Et il n'y a pas d'audition. Il n'y a pas, le rapport au niveau est totalement effacé. C'est pas du tout comme au conservatoire. Et puis, c'est des gamins, que les parents n'ont pas inscrits au conservatoire. C'est aussi, voilà, ça lutte contre un certain déterminisme social. Donc on peut faire un solo de grimace. On peut faire un numéro de claquette en chaussettes si on sait pas faire de claquette. Voilà.
Et on peut aussi aller dans toutes sortes de directions. Ces derniers temps, le cabaret, on a été très axé, en tout cas sur les personnages et les créatures qu'on a pu voir, était très axé sur des questions liées au genre. Vous, tout est possible. Il y a
oui,
cette idée, on a un peu l'impression maintenant que les filles deviennent des personnages à moustache et les garçons des personnages à talons, si je caricaturais un peu vilainement peut-être.
Enfin oui, qu'est-ce que vous êtes vilaine, oui. Céline,
bah, c'est avoir un talon et des moustaches.
Oui, 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 oui.
Bien sûr, bien sûr. Le genre, bah, c'est si on suit une pulsion créatrice personnelle. Par exemple, j'avoue que cette année, j'ai libéré une jeune étudiante qui voulait s'obliger à travailler le genre. Et elle faisait de façon très médiocre. Je peux le dire, je pense pas qu'elle écoute France Culture ce soir. Et franchement, je dis, mais ne t'impose pas ça, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. T'as autre chose à dire, autre chose à faire. Enfin, cherchons, quoi. Et elle a fait un striptease où elle ne se déshabillait pas. C'était une... Donc voilà, l'humour était là. L'humour était là dans le fait de ne pas retirer de vêtements. On fait feu de tout bois, quoi. Et en effet, moi, je les incite aussi à traverser le genre, l'âge, l'animalité, la déité. Enfin voilà, on est plus. Moi, je trouve que le genre c'est un peu binaire. Et voilà.
François, je crois que vous aviez vu Patachetouille sur scène quand on avait fait notre oui, mauvais genre.
Tout à fait, mais
au secret.
Ça me rappelle, j'ai pris des cours de théâtre avec une metteur en scène qui s'appelait Anne Delbé.
Oui.
Elle disait la première chose qu'il faut faire, fallait trouver son clown.
Oui, c'est vrai.
Alors, on commence, trouver votre clown. C'était quelque chose qui a l'air comme ça, mais c'était très, très difficile, puisque certains n'en ont pas d'apparence. Il y en a certains, c'est spontané. Ils ont un clown immédiat, non pas qu'ils sont plus cabotins que les autres, mais ils ont un clown qui s'affiche ou qui s'exprime rapidement. Et d'autres n'arrivaient pas à trouver leur clown. Et c'est quand même descendre dans les profondeurs vraiment... violente d'un individu, de lui faire trouver son clown. Parce que là, on parle effectivement des cours de cabaret à la Sorbonne, donc il y a une... c'est quand même un côté un peu artistique, distractif, mais ça peut toucher des fibres extrêmement inquiétantes, presque.
Oui, tout à fait. Alors, ces histoires de violence, justement, moi, je leur dis, je suis né sous Giscard, j'appartiens à une génération d'avant le consentement,
vous êtes
y compris dans l'enseignement artistique, c'est-à-dire... je suis pas sensible à la flatterie. Donc voilà, dans l'enseignement artistique que j'ai suivi, on nous a en effet emmené dans des zones de douleur, de souffrance, etc. Et maintenant, moi, j'essaye de déconstruire ça. Alors, j'ai pas de formation pédagogique, mais j'invite mes étudiants à avoir un regard sur le tableau de bord. Je leur dis, vous avez vraiment toute légitimité à me dire que là, vous souffrez trop, c'est inutile, etc. Bon, après, je suis pas quelqu'un qui aime faire souffrir de toute façon, mais je les invite plutôt à tricher. Et avoir le plaisir du jeu. Je pense qu'on peut aller tout aussi loin. Mais c'est vrai qu'après, le clown ou la créature, moi je me considère comme une créature, ça passe par une zone de mystère, en effet, on passe dans l'invisible, c'est très lié à l'inconscient. Mmh. Il faut accepter. Moi par exemple, j'ai découvert ça, le plaisir de faire rire sur scène. C'était Caroline Loeb qui me dirigeait pour le Goujon Folichon, justement. Et il y avait un moment, je comprenais pas, les gens riaient alors que je me sentais hyper belle et sexy. Et elle me dit, c'est là le vrai rire, c'est là le vrai humour. C'est quand les gens rient malgré toi, que tu n'imaginais pas qu'ils allaient rire là. Et c'est une espèce de fréquence qu'on peut trouver.
Est-ce qu'Agnès Curel, il y aurait quelque chose dans les propos de Patachtou qui peut vous faire penser justement au bonimenteur que vous avez croisé dans vos archives?
Peut-être toute la question autour de l'inquiétude, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le rire, la complicité, mais il y a quand même quelque chose aussi d'inquiétant. Qui joue à partir de ce qu'il dit. Il joue sur quand même les grandes inquiétudes de son temps, sur ce qu'on entend et donc ce qui peut nous inquiéter. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On attend peut-être aussi une forme de révélation qui attire et en même temps...
C'est le rapport à la vérité, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, exactement.
En lisant ce bouquin, moi j'étais fasciné par celui des crayons, justement, avec un culte de la personnalité, et ça me fait penser un peu au drag queen, où on est là, combien de drag queens ont combien de numéros, enfin de chansons qui portent leur nom de chanson, enfin il y a le côté auto-promo comme ça à l'américaine, très anglo-saxon. Et puis il y a une autre chose aussi qui m'a intéressé dans ce livre, c'est... Il y avait des endroits où on n'avait pas le droit de jouer, de faire du théâtre ambulant, et du coup on faisait commerce. Et il y avait des comédiens qui, du coup, j'ai bien compris, des comédiens qui vendaient des choses pour pouvoir exercer leur art au grand air.
Alors, c'est plutôt que pour bien vendre, ils avaient un comédien, etc. Mais j'aime bien, en fait, cette idée que peut-être qu'en fait, ils rêvent de jouer.
Moi, j'ai lu ça.
Je l'ai jamais, mais c'est très, très,
parce
très
que
intéressant.
Tout le monde ne se destine pas à l'art, ça dépend de quelle famille on vient, etc. Et puis, voilà, bon, ça m'intéressait ça. L'inversement du truc.
On empêche, on est très rigoureux sur où les comédiens ont le droit, les saltimbanques ont le droit de jouer ou pas, parce qu'on a extrêmement peur des attroupements.
Oui.
Et on cherche la fluidité du trafic.
Ouais. C'est pour ça que Vitaly se retrouve en prison.
Exactement. Et il n'a pas de passeport. Non, ça c'est Rémi. Rémi n'a pas de passeport. Le passeport, c'est ce que les saltimbanques sont censés avoir, parce qu'on contrôle leur déplacement. Donc c'est un passeport intérieur pour pouvoir
aller... C'est jaune, comme celui des bagnards. Non.
Ceux que j'ai vus étaient plutôt bleus. Mais c'est un peu la même logique, hein, quand même. C'est le contrôle des populations.
avec cette idée que peut-être que le cabaret, justement, de par son économie, alors est-ce que c'est un choix ou alors voilà, ça c'est un vaste sujet.
Alors moi je dis toujours, est-ce que c'est un art ou une économie le cabaret, voilà.
On ne sait
pareil,
pas.
Ça zone.
Mais à partir du moment où, par exemple, je me souviens de Victor Marzouk qui nous disait dans la série documentaire qu'on a fait avec Laurent Polleret sur le cabaret, qu'on peut faire cabaret avec deux bouts de ficelle, on met deux plots de chaque côté, on tire une ficelle et là on va faire cabaret. Il y a cette idée où tout à coup aussi le spectacle peut surgir un peu partout.
Tout à fait. C'est vraiment, il n'y a pas de quatrième mur, c'est totalement immersif. Il y a un rapport aussi à la boisson, à la consommation, qui fait que tout le monde, on respire le même air, quoi. Et en effet, le spectacle est partout. Parfois, ça peut, comme il n'y a pas de quatrième mur, on se mélange. Ça peut être quelqu'un, on prend en otage quelqu'un. On se séduit, ouais, on se mélange. C'est un chemin sans retour.
Eh bien, mélangeons-nous notamment à la foule qui écoute Les Bonimenteurs et qui entre dans les cabarets. Donc, je rappelle ce livre, Agnès Curel, Le Grand Théâtre du Bonimenteur, aux Presses Universitaires de Lyon. Et maintenant, le temps est venu d'ouvrir l'almanach de l'étrange.
L'almanach de l'étrange est consacré aujourd'hui à la jonction de deux univers qui, a priori, semblent être tout à fait séparés, celui de l'art du crochet, de sa laine soyeuse, et celui des backrooms. Deux mondes qui pourtant, grâce à Paul Clouzier, alias Pingo Spitz, se marient avec ferveur, mêlant délicatesse et une certaine vigueur. Pingo Spitz est architecte, scénographe, performeur, adepte du crochet, donc il manie depuis son adolescence. Il a commencé par se faire des cagoules, puis à force de les accumulé et passé aux vêtements, puis aux costumes. Les auditeurs de la nuit l'auront peut-être déjà croisé dans des free parties, des soirées techno, tout simplement dans la rue, avec son maquillage inspiré des masques de l'opéra de Shanghai, ses costumes associant le plus de couleurs possible, c'est une figure reconnaissable de la nuit. Il peut y réunir dans une même tenue toutes sortes d'influences, puisant des références chez les gothiques, les métalleux, les bohémiens, mais aussi chez les footballeurs et les prolétaires chasseurs du Loir-et-Cher, région de son enfance. L'idée étant d'associer différents archétypes, dont certains liés à une hyper-masculinité dans laquelle il ne se retrouve pas, mais pour mieux les subvertir. Tout est lié chez lui, costumes et installations, habitats et habits, le fil conducteur étant le crochet. Et c'est aussi avec cette idée d'associer les contraires qu'il s'intéresse au backroom, avec son crochet, son diplôme d'architecte en poche et son mémoire consacré au cruising, ces lieux de drague homosexuels. Il intervient dans des lieux de fête et y crée des espaces tout en crochet où les hommes vont pouvoir se rencontrer dans des architectures de laine semblables à de grands labyrinthes où l'on se perd pour mieux se retrouver. Mais quelles sont les premières questions que l'on se pose avant de créer une backroom ?
Comment filtrer les regards, comment créer des trajets à l'intérieur dans un espace, comment faire paraître l'espace plus petit à certains endroits, comment faire des rétractations, faire des chemins différents, comment gérer la lumière pour avoir un degré d'intimité, toutes ces choses-là. Mais avec le crochet en particulier, ce qui est bien, c'est que du coup, puisqu'on a la maille et qu'il y a le trou, ben, en fait, là, du coup, il y a une paroi qui a une sorte de transparence et du coup, ça rejoue encore avec cette idée d'intimité, de choses comme ça. Et puis, le tissu, il y a aussi quelque chose de très tactile. Dans un espace, une architecture qui se veut être pour le corps et pour le sexe, ben, du coup, avoir une architecture qui va être douce.
Autre activité douce à découvrir dans la palette de Pingo Spitz, de grandes installations en laine pensées comme des toiles d'araignée organiques dans lesquelles le corps d'homme consentant est immobilisé. L'on songe immédiatement au shibari, art japonais que Pingo Spitz connaît bien, et pratique à sa manière en le transformant avec la douceur de son fil. Figé dans une pose contemplative, l'heureux captif semble faire corps avec la grande installation qui l'entoure et où le temps s'écoule lentement, avant que Pingo Spitz ne tire sur un fil et qu'en quelques minutes, la toile se défasse et le libère. Toutes les références de Paul Clouzier alias Pingo Spitz sont à retrouver sur la page de l'almanach de l'étrange. Une date à retenir, le 6 septembre au Hasard Ludique à Paris, où il fera une performance longue de 15h à 22h à l'invitation du collectif Corps Libre. Thank you.
Seconde chronique ce soir dans Mauvais Genre, Esther Teilhard et ses sirènes.
Bonsoir Mauvais Genre.
Bonsoir.
Ce soir, aux tumultueuses et créatures apocalyptiques pour clore en beauté cette méchante année. S'il y a bien une exposition à aller voir à Paris en ce début d'été, c'est celle de Marcella Barcello à la Galerie Dina Vierny, 53 rue de Seine, 6e arrondissement. Marcella Barcello est peintre, ses toiles sont à se tuer de beauté. Des enfants égarés dans des forêts de cerisiers, des coqs, des volcans, des ciels déchaînés, de toutes jeunes femmes au bord de l'eau. Beaucoup d'eau, des ondulations, des cactus, des pleines lunes. Marcella Barcello est une artiste du bizarre, tout à fait mauvais genre. Ses toiles ressemblent à des oracles, ses sculptures à des spectres. En ce moment, une exposition lui est consacrée à la galerie Dina Vierny. Elle s'appelle « Still Waters Run Deep » ou « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». Méfiez-vous de l'univers de Marcella Barcello. Il est liquide, s'insère partout et risquerait de vous hanter. L'eau danse entre chacune de ses compositions, se perle sur le corps, caresse les lieux et les êtres, ne s'évapore jamais. Dans cette exposition, vous trouverez des reflets trompeurs, des îles femmes, des naïades, et mon œuvre préférée, une sculpture de 2 mètres, une sirène perchée sur la tête. La sirène est en bronze, durable et éternelle. Elle s'appelle la flamme mouillée, se joue bien des contraires, androgyne jusqu'au bout des ongles, femelle contre eau femelle. Chers auditeurs de mauvais genre, comme vous, audience parfaite, les sirènes sont de la race des insectes, des sensuels. La ningyo japonaise prend au poisson le corps, à la femme le visage, à la fillette la voix. La nyx, nymphe des eaux, donne jeunesse éternelle à quiconque se trempe dans son eau à l'équinoxe de printemps. Si Parthénope accroche avec sa voix de vierge, l'esprit aquatique est avant tout strident, une orgie, un excès. La flamme mouillée de Marcella Barcello est intranquille. Elle endort et enrobe. Ses tours sont sur ses courbes. Nana de Saint-Phal sans ne jamais tenter le gras. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Son âme rôde, c'est celle d'Ondine de Giraudoux, du pendu du tarot de Marseille. La flamme mouillée de Marcella est cruelle, tragique, trop belle pour être honnête. Elle se joue de tout et surtout de vous. Évidemment, c'est une sirène, une femme à queue. L'exposition de Marcella Barcello est visible jusqu'au 19 juillet à la galerie Dina Vierny. Ne pas s'y rendre serait indigne de vous, meilleure audience du monde.
Merci, au nom de l'audience de Mauvais Genre. On termine avec vous, Fausto Fazulo. Alors, ce n'est pas des sirènes, c'est des anges.
Non, mais pas loin, j'aurais pu choisir un film de sirène. Il y a un formidable film de sirène qui s'appelle La vengeance d'une sirène, film japonais de Toshiro Ikeda, qui raconte la vengeance d'une femme de pêcheur, et qui est absolument formidable. Mais j'ai choisi de parler d'un tir groupé de l'éditeur Le Chat qui Fume, donc je prolonge un petit peu, je me suis permis de prolonger le plaisir de l'émission vidéo de la semaine dernière, François.
Allons-y, prolongeons.
Tir groupé de l'éditeur Le Chat qui Fume, qui sort 3 films érotiques japonais. Alors j'ai bien vu, quand je vous ai parlé de ces films-là, il y en a un qui vous a un petit peu tapé dans l'œil, c'est... Non dans l'enfer des cornes, donc j'ai bien reconnu le catholique décadent en fait qui bouillonnait en vous et qui souhaitait que je parle de ce film-là. Malheureusement, je ne vais pas parler de ce film-là, ni Star of David, Vice et Sévice. Je vais parler d'Angel Guts, Classe Rouge, qui est un film de Shusei Sone. Shusei Sone, on le connaît un petit peu en France, puisque en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'éditeur Wildside avait sorti une collection de romans porno en DVD.
Nous en parlâmes.
Voilà. Et il y avait eu plusieurs films qui étaient sortis à l'époque. Il y avait eu La leçon de choses de Mademoiselle Medjika, il y avait eu Journal érotique d'une infirmière, il y avait eu Graines de prostituée. Donc c'était la première fois que le public français, en fait, avait affaire à la filmographie de Shusei Sone. Avec ce film-là, Angel Guts, on est toujours dans le roman porno, donc je recontextualise un petit peu. Le roman porno a été créé ou lancé plutôt en 1971 par la Nikatsu. C'était un petit peu le briser la glace en cas d'urgence. Ils avaient absolument besoin de renflouer les comptes de la société et de retrouver enfin du public en salle. Et ils se sont lancés justement dans ces productions érotiques. Productions érotiques qui ont vu émerger en fait des réalisateurs au talent immense, dont Shusei Sone fait partie, mais il est peut-être moins célèbre que d'autres metteurs en scène comme Konuma, Kumashi et d'autres qui sont un petit peu plus plébiscités des cinéphiles. Angel Guts, Classe Rouge, appartient à une série de 6 films qui ont été réalisés entre 1978 et 1994 et qui sont tous inspirés ou plus ou moins adaptés de récits qui ont été créés par un célèbre mangaka qui n'a malheureusement jamais été édité en France, qui s'appelle Takashi Ishii, qui a aussi eu une carrière de cinéaste par ailleurs et qu'on connaît en France surtout, enfin en France à l'international surtout pour l'un de ses plus célèbres titres qui est Gonin. Et Angel Guts, pour pitcher très très rapidement le film, raconte l'obsession d'un rédacteur en chef d'une revue érotique pour une jeune femme dont il a vu des images dans une production pornographique projetée de manière clandestine. Il va développer une sorte de fascination pour elle et il va essayer de la traquer, de la poursuivre et peut-être de créer quelque chose de plus fort que l'amour avec elle.
Merci Fausto, donc aux éditions Le Chat qui fume. Merci Agnès Curel, merci Partage Touille d'avoir beaucoup. Été ce soir les invités de Mauvais Genre. Merci infiniment à toutes nos auditrices, nos auditeurs de nous avoir suivis au long de cette 28e saison. Merci à Laurent Polleret et à tous ceux qui l'assistent le samedi. On se retrouve le 30 août sur France Culture, le samedi à 20h, toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent Polleret, Noé Chaban, Claire Poissignon, Céline Duchesnay, Claire-Martin Dugard, Esther Teillard, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.